VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, édition du mercredi 20 juillet 2022. Jean-Roger Bion à ce micro, bonsoir à tous, à la une de nos informations. Le Mali expulse Olivier Salgado, porte-parole de la MINUSMA. Il a 72 heures pour quitter le pays. Des médiateurs de la CEDEAO sont à Conakry pour discuter avec la junte de la durée de la transition en Guinée. Au Nigeria, l'un des deux prêtres enlevés la semaine dernière a été tué. Ici aux États-Unis, le président Joe Biden va annoncer des mesures contre le changement climatique. Ne manquez pas dans cette session d'information la minute éco et les sports, mais tout d'abord, le journal. Au Mali, l'affaire des 49 militaires ivoiriens arrêtés le 10 juillet à Bamako a fait des dégâts collatéraux. Le porte-parole de la MINUSMA, Olivier Salgado, a 72 heures pour quitter le pays à la demande des autorités maliennes. Les détails avec Mohamed Danyoko.
Pour avoir tweeté que les autorités maliennes auraient été informées de l'arrivée des soldats ivoiriens arrêtés à l'aéroport international Bamako Modibo Keïta Senou le 10 juillet dernier, le porte-parole de la MINUSMA, Olivier Salgado, vient d'être invité par le gouvernement malien à quitter le territoire dans les 72 heures. Cette décision a été notifiée à Daniela Kroslak, représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies au Mali, lors de son audience ce matin au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Selon le communiqué émanant du ministère des Affaires étrangères, la demande officielle qui a été adressée à Olivier Salgado à travers sa hiérarchie depuis le 12 juillet pour fournir les preuves de ses affirmations est restée sans suite. Prolixe en tweet, une heure après la publication de ce communiqué, Olivier Salgado n'avait pas réagi sur son compte. Il en était de même sur le compte Twitter de la MINUSMA. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
Une délégation de médiateurs de la CEDEAO, dont l'ancien président béninois Thomas Boniayi, est à Conakry pour discuter du délai de la transition en Guinée. Les précisions avec Nani Talani.
Président en exercice de la CEDEAO, le chef de l'État bissau-guinéen Oumaro Sissoko Mbalo et le président de la commission de la CEDEAO, le Gambien Omar Aliou Touré, ont été accueillis à Conakry par le colonel Mamadi Doumbouya. Boniayi est arrivé mardi et les trois hommes doivent être reçus par le chef de la junte puis rencontrer des diplomates étrangers. La CEDEAO rejette le délai de 3 ans de transition militaire avant le retour d'un pouvoir civil que propose le colonel Doumbouya. La Guinée est toujours suspendue des organes de la CEDEAO. Par ailleurs, la NAD, une coalition menée par l'ex-premier ministre Seloud Alain Diallo, se dit inquiétée par l'allongement de la liste d'atteinte aux droits fondamentaux et proteste contre l'interdiction de sortie du pays à Oumar Sylla, alias Fonike Menge, coordonnateur du FNDC, une autre coalition qui avait menacé de reprendre les manifestations toujours interdites en Guinée.
Au Togo, l'opposition a réclamé aujourd'hui une enquête indépendante sur l'attaque menée la semaine dernière contre 4 villages dans le nord du pays qui a fait des morts et des blessés, dont des civils. L'armée avait évoqué plusieurs morts et quelques blessés dans des attaques coordonnées et complexes menées dans la nuit du 14 au 15 juillet par des individus armés non identifiés sans communiquer de bilan précis. Plusieurs médias locaux avaient alors évoqué entre 15 et 20 civils tués. Au Bénin, les biens de Sébastien Ajavon, figure de l'opposition en exil, condamné par la justice, seront vendus aux enchères, a annoncé l'agent judiciaire du Trésor béninois dans un communiqué publié mardi. L'opposant richissime, homme d'affaires, a eu des ennuis judiciaires dans son pays depuis la découverte d'environ 18 kilos de cocaïne pure d'une valeur estimée à 14 millions d'euros dans un conteneur destiné à l'une de ses sociétés. D'abord arrêté, Sébastien Ajavon est relaxé quelques mois plus tard pour absence de preuves et au bénéfice du doute, mais un tribunal spécial l'avait ensuite condamné en 2018 par contumace à 20 ans de prison. Au Nigeria, un prêtre catholique enlevé la semaine dernière dans le nord-ouest a été tué par ses ravisseurs, tandis qu'un autre prêtre qui avait été kidnappé le même jour a réussi à s'échapper. Les détails avec Claire Morin-Gibou.
Le décès du prêtre Jean-Marc Tchietnoum a été confirmé par son collègue Donatus Cléopas, enlevé en même temps que lui le 15 juillet dans une église du village de Yadin Goura, dans l'état de Kaduna, où il s'était arrêté pour la nuit, a déclaré Joseph Ayab, responsable de l'association chrétienne du Nigeria à Kaduna. Hier, le prêtre Cléopas a réussi à échapper à ses ravisseurs alors qu'ils étaient en chemin pour rencontrer un émissaire de l'association afin de l'échanger contre une rançon. Le corps du révérend Tchietnoum, qui avait été tué le jour de leur enlèvement, a été récupéré et l'enterrement aura lieu demain. Monsieur Ayab a négocié pendant plusieurs jours avec les bandits qui avaient initialement exigé 60 millions de naira, soit 145 000 dollars pour les deux prêtres. Dans sa fuite, Donatus Cléopas n'a pas eu le temps de joindre sa paroisse et les bandits ont alors enlevé l'homme envoyé par l'association pour payer la rançon. Kaduna est l'un des états les plus touchés par les attaques de gangs.
Le conflit tribal dans le sud du Soudan a fait 105 morts et 291 blessés la semaine dernière, selon un nouveau bilan donné par le ministre de la Santé de l'État du Nil Bleu, Jamal Nasser. Après près d'une semaine d'affrontements, le calme est revenu dans cet état, mais les Haoussa, l'une des ethnies impliquées dans le conflit, se mobilisant à travers le pays pour réclamer justice. L'ancien préfet rwandais Laurent Mbouchi-Baruta, condamné à Paris à 20 ans de réclusion criminelle pour complicité de génocide, a fait appel de la décision de la cour d'assises et sera donc réjugé. L'ancien haut fonctionnaire âgé de 78 ans a été acquitté le 12 juillet en tant qu'auteur de génocide, mais reconnu coupable en tant que complice de génocide pour 4 massacres. Le président américain Joe Biden a annoncé aujourd'hui la tenue d'un sommet entre les États-Unis et plusieurs dizaines de dirigeants africains en décembre à Washington pour discuter de défis allant de la sécurité alimentaire au changement climatique. Le sommet visera à établir un nouvel engagement économique, à promouvoir la démocratie et les droits humains, à faire progresser la paix et la sécurité et à relever des défis tels que la sécurité alimentaire et le changement climatique, a dit le président Biden. Ce sommet aura lieu du 13 au 15 décembre et une cinquantaine de dirigeants africains devraient y participer.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le président Joe Biden, paralysé au Congrès et limité par la Cour suprême, tente malgré tout de relancer ses promesses climatiques. Il annonce aujourd'hui de nouvelles mesures réglementaires au moment où une vague de chaleur étouffe les États-Unis et plusieurs pays européens. Eric Manirakiza.
L'administration Biden se dit déterminée à tenir ses engagements climatiques, notamment la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Joe Biden dira clairement que le temps presse pour s'attaquer à la menace existentielle du réchauffement climatique aux États-Unis et dans le monde, a déclaré un responsable de la Maison-Blanche sous couvert d'anonymat. Parmi les décrets qu'il devrait dévoiler, des fonds supplémentaires pour aider à protéger les régions confrontées à la chaleur extrême et des mesures pour stimuler la production d'énergie éolienne aux États-Unis. Mais il ne devrait pas, du moins pour le moment, déclarer l'état d'urgence climatique comme le réclament certains élus de son parti. Le président américain va s'exprimer ce soir depuis une ancienne centrale électrique au charbon du Massachusetts. Ce site était considéré comme particulièrement polluant avant sa fermeture en 2017. Il est actuellement en cours de reconversion vers l'énergie éolienne.
Le chef de la diplomatie russe a affirmé aujourd'hui que les objectifs militaires de la Russie en Ukraine ne se limitaient plus uniquement à l'est du pays, mais concernaient également d'autres territoires et pourraient encore s'étendre. Sergueï Lavrov a justifié ce changement par une géographie différente par rapport à la situation qui existait sur le terrain à la fin du mois de mars, lorsque Moscou avait dit vouloir se concentrer sur l'Est après avoir échoué à prendre Kiev, la capitale ukrainienne. En Grande-Bretagne, l'ancien ministre des Finances Rishi Sunak et l'actuel ministre des Affaires étrangères Liz Truss sont les deux derniers candidats en lice pour succéder à Boris Johnson à la tête du parti conservateur. Après un cinquième tour de scrutin, Rishi Sunak, qui a terminé en tête de chacun des tours, a recueilli 137 voix contre 113 pour Liz Truss. L'ex-ministre de la Défense, Penny Mordaunt, a été éliminé. Le nom du successeur de Boris Johnson doit être dévoilé le 5 septembre. Et le président du Conseil italien Mario Draghi a exigé aujourd'hui l'unité de sa coalition pour rester au pouvoir, laissant ainsi toujours planer la menace d'une démission. Et pour terminer, au Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, président par intérim, a été élu aujourd'hui président à une écrasante majorité par le Parlement pour succéder à Gotabaya Rajapaksa, qui a démissionné la semaine dernière après avoir fui son pays. Wickremesinghe, élu pour la période restante du mandat de M. Rajapaksa, qui se termine en novembre 2024, doit maintenant choisir un premier ministre pour former un nouveau gouvernement. À présent, la Minute Éco avec Nani Talani.
En Afrique du Sud, l'inflation s'est accélérée en juin et atteint son plus haut niveau depuis 13 ans avec une hausse des prix de l'alimentation, des transports et du logement. L'inflation des prix à la consommation a atteint 7,4% en juin contre 6,5% en mai, ce qui marque son rythme le plus élevé depuis mai 2019, indique l'Agence nationale des statistiques. Aux États-Unis, les prix de l'essence baissent de 1,32 $ le litre après un pic historique de 5,01 $ le gallon mi-juin. Cette baisse est attribuée au ralentissement de la demande américaine et à des craintes de récession qui contracteraient la demande mondiale de brut et de produits raffinés dans l'essence. La semaine dernière, la demande d'essence est tombée à son plus bas niveau depuis le début de l'année. Toutefois, les prix restent à plus de 40% de leur niveau de l'an dernier. Terminons par le président Vladimir Poutine qui a appelé mardi à lever les restrictions occidentales sur les céréales russes pour espérer obtenir des avancées dans l'exportation de la production agricole ukrainienne. Les restrictions sur les livraisons d'engrais russes sur le marché mondial ont été levées par les Américains dans la pratique. S'ils veulent améliorer la situation sur les marchés mondiaux alimentaires, j'espère qu'il en sera de même concernant les exportations de céréales russes, a assuré M. Poutine après des pourparlers à Téhéran en Iran.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Athlétisme pour commencer avec les mondiaux qui ont lieu à Eugene, ici aux États-Unis.
Oui, le Brésilien Alisson Dos Santos a enlevé le 400 mètres haies avec le troisième meilleur chrono de tous les temps, 46 secondes 29 centièmes. Le champion olympique en titre, le Norvégien Karsten Warholm, a terminé septième. Dos Santos, médaillé de bronze olympique l'été dernier à Tokyo, a devancé deux Américains, Ray Benjamin, lui médaillé d'argent olympique il y a un an, et Trevor Bassett. Dos Santos apporte au Brésil la première médaille mondiale de son histoire sur 400 mètres haies.
Les CAF Awards auront lieu demain jeudi à Rabat au Maroc.
La CAF a dévoilé la liste des trois nominés dans chaque catégorie pour les titres de meilleur joueur africain masculin de l'année. Le vainqueur en titre, le Sénégalais du Bayern Munich, Sadio Mané, est favori à sa propre succession. Il fera face à son ancien coéquipier de Liverpool, l'Égyptien Mohamed Salah, et à son équipier en équipe nationale, le gardien de but de Chelsea, Edouard Mendy. Chez les dames, on retrouve la quadruple lauréate Aziza Oshoala, joueuse du FC Barcelone et du Nigeria, en quête d'une cinquième couronne. Cependant, elle doit faire face à une forte concurrence de la Camerounaise Adjara Nchutonjoa et de la nouvelle venue Grace Chanda de la Zambie.
Juan Micha prolonge son contrat avec l'équipe nationale de la Guinée équatoriale.
L'Équato-Guinéen est désormais lié au Tsalang national jusqu'en 2024. Nommé entraîneur intérimaire en 2020, puis titulaire en 2021, Juan Micha est le sélectionneur national ayant réalisé le plus grand exploit avec la Guinée équatoriale. Il a atteint les quarts de finale de la dernière CAN au Cameroun où il a été éliminé par le Sénégal. En huitième de finale, le coach équato-guinéen et ses poulains sont sortis vainqueurs du duel les opposant au Mali au tir au but après un score de 0-0 à l'issue du temps réglementaire et des prolongations.
Tiemoué Bakayoko dénonce les conditions d'un contrôle de police subi en Italie.
L'erreur est humaine, je n'ai aucun problème avec ça. En revanche, la manière et la méthodologie qui ont été utilisées me posent problème, soutient Tiemoué Bakayoko. En effet, dans une vidéo virale sur les réseaux sociaux, le milieu de terrain français, très calme, est fouillé par un policier, main en l'air et appuyé sur une voiture de police. À ses côtés, un autre membre des forces de l'ordre pointe son pistolet. À l'intérieur du véhicule d'où Bakayoko est vraisemblablement sorti, Le policier qui fouillait Bakayoko semble après reconnaître le footballeur et cesse immédiatement la fouille. Dans un communiqué, la préfecture de Milan a assuré que Bakayoko et l'autre passager du véhicule ont été contrôlés parce qu'ils ressemblaient à la description faite de deux suspects dans une autre affaire.
Page de sport VO Afrique signée Yakuba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Après le retrait du Mali et 5 années d'opération au bilan très critiqué, l'organisation du G5 Sahel cherche un second souffle pour faire face à une dégradation continue de la situation sécuritaire au Sahel. Le G5 Sahel peut-il survivre ? Éric Manirakiza a joint à Paris Sédic Abba, auteur d'un ouvrage « Mali Sahel, notre Afghanistan à nous ».
Il est évident que le G5 Sahel a été conçu pour 5 pays, le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. À partir du moment où le Mali se retire du G5 Sahel, l'existence de l'organisation devient problématique. Je suis convaincu que toute autre solution qui ne passerait pas par la réadmission du Mali, par des démarches pour convaincre le Mali du G5 Sahel, me paraît peu efficace dans l'avenir.
Les 4 membres restants vont se réunir bientôt pour essayer de garder en vie le G5 Sahel et le rendre viable. Comment faire subsister une force conjointe sans le Mali, pivot et épicentre du conflit?
Le Tchad notamment a clairement dit qu'il faut convaincre le Mali de reconsidérer sa position. Il n'y a aucune possibilité d'efficacité de la force conjointe sans le Mali parce que aujourd'hui tous les défis de la force conjointe, l'insécurité au Sahel se trouvent dans la zone de 3 frontières qu'on appelle la zone de 3 frontières qui est commune au Niger, au Burkina et au Mali. Elle ne se retrouve ni au Tchad ni en Mauritanie. Donc on ne peut pas faire un G4 Sahel qui exclurait le Mali parce qu'il n'y aurait pas d'efficacité sur le plan opérationnel. Il faut que le Mali fasse aussi pour que, notamment, on puisse avoir des résultats concrets dans la lutte contre l'État islamique au Grand Sahara et le groupe de soutien à l'islam et aux combattants qui sont très actifs dans la zone des 3 frontières. C'est au niveau de la zone des 3 frontières que se trouve la menace. C'est à ce niveau-là qu'il y a une importance. Et cette zone-là concerne aussi le Mali. Donc on ne peut pas faire un sommet de 4 chefs d'État et à partir de ce sommet, redynamiser la force conjointe. Si on n'associe pas le Mali, ça ne paraît pas efficace, ça ne paraît pas faisable, ça ne paraît pas crédible et ça n'aura pas d'impact si on n'associe pas le Mali. Je crois qu'aujourd'hui, l'urgence, c'est de reprendre langue avec Bamako, rediscuter avec Bamako pour voir quelles sont les conditions qu'on pourrait créer pour que le Mali revienne dans le G5 Sahel et c'est ça seulement qui peut sauver le G5 Sahel.
Entre-temps, les djihadistes gagnent du terrain.
Oui, c'est exact. La menace au coup de but ne concernait que les pays du Sahel. Depuis un moment, on constate qu'elle s'est définitivement installée au Bénin, qu'elle s'est installée au Togo. Le Togo a subi 2 attaques successives en moins de 5 jours. Donc, il y a aujourd'hui une extension de la menace au-delà du Sahel pendant que le pays cherche à renforcer la force conjointe. Au-delà de ça, il a été acté en février la nécessité de mettre en œuvre la coordination entre les pays du G5 Sahel et le pays de l'initiative d'Accra, qui regroupe les pays du Golfe de Guinée, le Burkina Faso, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Ghana. Et donc, cette initiative-là, pendant qu'on est en train de chercher à la mettre en œuvre, la coordination entre l'initiative d'Accra et le G5 Sahel, les groupes djihadistes, pendant ce temps, gagnent du terrain, renforcent leur présence dans les pays qui sont déjà concernés, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, mais gagnent encore du territoire en portant leur menace au-delà du Sahel, dans les pays du Golfe de Guinée, que sont le Bénin et le Togo. Et ils n'attendent pas. L'agenda, aujourd'hui, profite plus aux groupes djihadistes qu'aux pays du G5 Sahel et aux pays du Golfe de Guinée, qui sont la cible, désormais, des groupes djihadistes.
Sédic Abba, auteur d'un ouvrage « Mali, Sahel, notre Afghanistan à nous ».
Parlez de VOA Afrique à vos amis. VOA Afrique au Mali, c'est 102 FM Bamako, 106.1 Gao et 90.3 FM Tombouctou.
En Guinée, le faible nombre d'admis au baccalauréat relance le débat sur la qualité de l'éducation. Avec 9% de taux de réussite cette année, la Guinée vient d'enregistrer l'un des pires résultats de son système. Ce résultat est la conséquence de la dégénérescence du système éducatif, expliquent les autorités de l'éducation guinéenne. On fait le point avec notre correspondant à Conakry, Zakaria Camara.
Le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation avait alerté parents et élèves sur sa politique de tolérance zéro. La correction a été sécurisée, des raisons qui peuvent expliquer ce faible taux de réussite. D'autres raisons sont ailleurs, selon Mori Konaté, encadreur.
À l'état aujourd'hui, d'évaluer en grande partie, il faut oser de le dire, il y a beaucoup d'enseignants, mais l'ensemble de ces enseignants n'ont pas la capacité, des fois dire intellectuelle et pédagogique, pour pouvoir enseigner et faire passer le message réel. Deuxièmement, il faut essayer de voir aussi les infrastructures éducatives en République de Guinée. Vous avez déjà 60 élèves à 80 élèves par salle. Pour un enseignant de 2 heures de temps, il ne peut pas avoir cette capacité intellectuelle d'interroger.
Même si c'est un secret de polichinelle de dire que le système éducatif guinéen est défaillant, certaines écoles privées prouvent le contraire. La première de la République en sciences sociales est une candidate du complexe Saint-Georges. L'école a fait de très bons résultats.
Je m'appelle Denise Menitunkara, j'ai été élève en terminale sciences sociales au complexe scolaire Saint-Georges. J'ai travaillé dur puisque je me suis vraiment concentrée sur les études 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, j'ai travaillé. Et les conditions ont été créées principalement, non seulement par mes parents, par mes professeurs et par mes encadreurs. Parce que mes encadreurs et mes professeurs, ils m'ont beaucoup aidé. Ils ont été perspicaces, tenaces et vraiment patients. Patients avec moi, avec les cours de révision à l'école. Mes parents aussi, ils ont vraiment créé un cadre social à la maison dans lequel j'ai pu réviser. Donc c'est de cette façon-là que j'ai pu préparer mon examen. Les révisions à la maison, à l'école et avec les évaluations à chaque fois que je regardais l'évolution de mon niveau.
Depuis plusieurs années, le taux de réussite ne dépasse pas les 30% au baccalauréat. Pour cet analyste de l'actualité guinéenne, les élèves s'écartent de l'objectif. Mohamed Kaba.
On a tout le temps dit qu'il faut faire l'état, les états généraux de l'éducation, mais c'est laisser l'être mort dans les tiroirs. L'éducation, on n'en fait pas une priorité dans les faits, mais dans le langage courant, c'est une priorité selon une certaine opinion. Alors, moi je pense que ces 9% reflètent le niveau réel de l'apprenant guinéen. Parce que, écoutez, cher monsieur, et lorsqu'un candidat au baccalauréat passe son temps à surfer sur Facebook, lorsqu'un candidat baccalauréat passe son temps à faire des selfies, lorsqu'un candidat baccalauréat passe son temps à faire TikTok, qu'est-ce que vous voulez derrière? C'est la catastrophe.
Cette année, 91% des candidats qui ont affronté les épreuves de baccalauréat ont échoué. Conakry, Zakaria Camara, pour VO Afrique.
Au Ghana, les autorités sanitaires affirment que plus d'un tiers des personnes mises en isolement après une épidémie du virus de Marburg, une fièvre de la même famille que le virus Ebola, ont été autorisées à retourner à la vie normale. À la suite de 2 cas mortels de la fièvre de Marburg, les autorités avaient mis en quarantaine 98 personnes cette semaine. Le reportage de Kent Mansa depuis Accra, la capitale du Ghana. Le récit est de Claire Morin-Gibou.
C'est la première fois que le virus de Marburg a été confirmé au Ghana. Un cas a été enregistré en Guinée l'année dernière. Pour le directeur général des services de santé du Ghana, le docteur Patrick Kouma Abogayi, il n'y a pas lieu de s'alarmer.
Nous avons eu 98 contacts, agents de santé, employés des services mortuaires, membres de la famille. Environ 39 d'entre eux ont terminé leur quarantaine. Sur les 98 contacts, nous en avons testé 13 au hasard. Ils ont tous été négatifs jusqu'à présent. Il ne faut pas s'inquiéter, mais être vigilant et savoir ce qu'il faut éviter.
Toujours, selon le docteur Kouma Abouyagi, le mécanisme de surveillance du pays a été en alerte rouge pour détecter les cas suspects de Marburg.
Nous avons un mécanisme de surveillance général pour toutes les conditions, y compris Marburg. C'est pourquoi le système a pu réagir si tôt. Si nous ne l'avions pas repéré aussitôt, il se serait propagé à d'autres endroits il serait devenu plus difficile de le contenir. Une équipe d'intervention est dédiée à cela dans les régions. Nous avons également les volontaires communautaires qui ont été formés pour identifier toute maladie étrange et faire un signalement pour une réponse immédiate.
L'Organisation mondiale de la santé affirme que les taux de mortalité pour les précédentes épidémies de Marburg ont varié de 24 à 88% et qu'il n'y a pas encore de vaccin ou de traitement. Les autorités sanitaires ont réagi rapidement, prenant une longueur d'avance pour se préparer à une éventuelle épidémie, a déclaré le représentant de l'OMS au Ghana, le docteur Francis Kasolo. Il a ajouté « C'est bien parce que, sans action immédiate et décisive, Marburg peut facilement devenir incontrôlable ». Anita Asamoah, une militante pour une meilleure santé publique, affirme que davantage doit être fait pour éduquer le public sur les symptômes de Marburg et les mesures de sécurité.
Individual advocates and health, you know, awareness creators.
Une meilleure prise de conscience doit être créée. Un travail de sensibilisation doit se faire davantage dans les collectivités rurales jusqu'à ce qu'il y ait un vaccin. Des mesures de précaution doivent être suivies strictement. Signaler rapidement les cas suspects chez les personnes qui présentent des symptômes tels que de la fièvre, des saignements, des toux avec crachement de sang et si du sang est présent dans les urines.
Bien que proche du virus Ebola, il est réputé moins létal que ce dernier. Le virus de Marburg tire son nom de la ville de Marburg en Allemagne, où les premiers cas sont apparus en 1967 chez des chercheurs, avant le développement de deux épidémies en 2000 en République démocratique du Congo et en 2005 en Angola.
Le Rwanda accueille ce lundi le premier congrès des aires protégées d'Afrique à Kigali. Ce rassemblement de 6 jours regroupe des délégués de tout le continent et se tient avant le sommet de la COP15 en décembre prochain. Le point avec Nani Talani.
Ce premier rassemblement africain est axé sur le rôle des aires protégées pour assurer l'avenir de notre planète. Les participants à cette conférence de 6 jours discuteront de la position des réserves naturelles africaines en tant que moteur de l'économie du continent et du bien-être de ses populations. Lors de la cérémonie d'ouverture, le Premier ministre rwandais Edouard Ngirente a rappelé l'importance de la protection de l'environnement.
We all depend on a safe, clean, healthy.
Nous dépendons tous d'un environnement sûr, propre, sain et durable pour survivre. Il est donc dans l'intérêt de tous que les écosystèmes soient bien entretenus, car les conséquences d'un manquement à cet égard sont graves pour la vie humaine.
Le rassemblement de Kigali se déroule jusqu'au 23 juillet et a attiré plus de 2000 participants de toute l'Afrique et d'ailleurs. Les organisateurs soutiennent que la PAC vise à façonner le rôle des aires protégées et conservées dans la sauvegarde de la faune africaine, la fourniture de services écosystémiques vitaux et la promotion du développement durable tout en préservant le patrimoine culturel et les traditions de l'Afrique. Un continent si riche en biodiversité, comme le souligne le Premier ministre rwandais.
L'Afrique est riche en biodiversité, peut-être la plus riche du monde. Nous avons les plus belles rivières, les plus belles forêts, les plus belles montagnes et une variété d'animaux sauvages que l'on ne trouve que sur ce continent. Nous ne devons donc ménager aucun effort pour protéger et conserver cette diversité.
Pour M. Ngirente, il est grand temps que les décideurs politiques africains mettent en place des mesures et des stratégies fortes pour s'assurer que la dévastation de notre riche biodiversité soit stoppée. Le mois dernier, la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique a tenu des négociations sur le projet de traité de la COP15, visant notamment à désigner 30% de la superficie terrestre et des océans de la Terre comme zone protégée d'ici 2030. Car les menaces interconnectées de la perte de la biodiversité et du changement climatique sont une urgence planétaire. Selon le dernier rapport Protected Planet du Centre mondial de surveillance de la conservation de la nature des Nations Unies, seuls 17% des habitats terrestres et environ 7% des zones marines étaient protégées en 2020. Un million d'espèces sont menacées d'extinction, selon les experts de l'ONU, et le réchauffement climatique est en passe de rendre invivables de vastes pans de la planète.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde de Michel Joseph. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.